Chapitre 68. Hugo est allongé dans la chambre de sa suite, les rideaux occultants sont tirés, et dans la pénombre autour de lui se tiennent Yona, Agneta et Lars Grint. Hugo regarde son téléphone tandis qu'Eric explique à nouveau, comme à son habitude, comment se déroulera l'hypnose, précisant qu'il s'agit en réalité de relaxation et de concentration. Yona remarque que Hugo est plus réservé que d'ordinaire. Il n'est ni rebelle ni ironique, mais semble se conformer à la situation avec une sorte de mélancolie. Il répond brièvement aux questions, ne participe pas à la conversation et adopte un ton inhabituellement sec envers le docteur Grint. Eric remercie Hugo pour sa confiance et tire une chaise près de la tête du lit. J'ai promis à Bernard que Hugo ne souffrirait pas de cette expérience, affirme Agneta. Bien sûr, répond Eric. Il a éprouvé une anxiété assez forte lors des deux précédentes séances. C'est pas grave, intervient Hugo, gêné, en posant son téléphone sur la table de nuit. Eric a des cernes profonds, mais ses rides au coin des yeux donnent à son visage une expression heureuse. L'hypnose ne doit en aucun cas provoquer un malaise durable, bien au contraire. Mais pendant quelques minutes, nous allons nous concentrer sur des souvenirs qui sont sans doute chargés d'angoisse, explique-t-il. Je préfère ne pas y penser avant, confie Hugo. Très bien. Je tiens simplement à te dire que je serai avec toi tout le temps, chaque seconde, afin de réduire au maximum le risque de revivre un traumatisme. Et avant de te faire sortir de l'état hypnotique, je t'enverrai une série de suggestions positives. Et moi, je serai là comme arbitre, ajoute Lars Grint. Si je juge que l'hypnose te nuit, ne serait-ce qu'un peu, je l'interromps. Tu peux me faire confiance, Hugo. Hugo évite le regard insistant du docteur. Alors nous sommes d'accord ? Demande Agneta, incertaine. Oui, mais vous devez aussi me laisser faire mon travail, insiste Eric. Vous êtes très compétent, ça ne fait aucun doute, répond-elle. Bernard et moi sommes favorables à ce que Hugo fasse tout son possible pour aider la police à arrêter la meurtrière, mais pas à n'importe quel prix.
Arrêtez, ça va, murmure Hugo en ajustant son pendentif.
Lorsque la conversation s'apaise et que le calme s'installe dans la pièce, Eric débute la relaxation. Il prend son temps et parcourt chaque muscle du corps de Hugo, le fait se concentrer sur sa respiration, répète sans cesse combien il est en sécurité, combien le lit est confortable et combien ses paupières deviennent de plus en plus lourdes. Une odeur étrange flotte dans la pièce, semblable à un après-rasage rance, remarque Yona. Agneta croise les bras sur sa poitrine et ferme les yeux. Une ride profonde se creuse entre ses sourcils. Lars Grint pince sa lèvre inférieure entre son pouce et son index. Les yeux de Hugo sont clos. Sa langue scintille entre ses lèvres légèrement entrouvertes. Pendant qu'Eric parle, il observe la respiration du jeune homme, le mouvement ondulant au niveau de son ventre, et ajuste le rythme de ses paroles à cette cadence. Yona se dit qu'Eric a déjà plongé deux fois dans les abysses et a retrouvé des débris de l'épave. D'abord, ils ont aperçu le meurtrier qui portait une perruque et une hache, puis des fragments sanglants du meurtre à travers la fenêtre arrière de la caravane. Le temps a manqué à Eric pour trouver un passage vers l'intérieur de la caravane. Chaque fois que Hugo était sur le point de franchir la porte, un saut temporel le ramenait au moment où les policiers le réveillaient sur le sol. Des images traumatisantes, suivies d'une perte de mémoire. Dans le cauchemar à l'origine du somnambulisme, Hugo suit sa mère et fuit avec elle un homme qui ressemble à une pile vivante d'ossements humains. Dans la réalité, il voit le meurtre d'un homme par la fenêtre et tombe à reculons dans l'herbe sans se réveiller. Il se relève et entre dans la caravane pour tenter de sauver sa mère, qui n'existe que dans le rêve. Mais les visions auxquelles il est confronté sont si terrifiantes qu'il est incapable de les loger à l'endroit habituel de son cerveau. Les souvenirs épisodiques sont d'abord stockés dans l'hippocampe avant d'être transférés au cortex cérébral. En général, il s'estompe avec le temps,
mais subsiste dans le réseau plastique du cerveau, au cœur des neurones et des synapses. Tu es profondément détendu et tu n'écoutes que ma voix, dit Eric. Il tente d'emmener Hugo dans une scène où il quitte une fête pour descendre un long escalier en bois sombre. Il parle de l'éclat du lustre sur le vernis de la rampe, du tapis rouge, des rampes en laiton, des pas feutrés de Hugo et de la diminution progressive du brouhaha, de la musique et du tintement des verres. Eric observe sa respiration lente tout en rendant sa voix de plus en plus monocorde. Il compte à rebours et, entre les chiffres, revient à l'escalier, répétant à Hugo de se concentrer uniquement sur sa voix et de laisser tout le reste disparaître, comme le bruit de la fête à l'étage. 32 31. Tu continues à descendre, dit Eric. Et quand j'aurai compté jusqu'à zéro, tu te trouveras au camping de Bredeng, secteur G, dans la nuit du 26 novembre, en train de marcher dans ton sommeil. Tu pourras prendre le temps de regarder autour de toi. Tu seras calme et tu garderas un contrôle total sur la situation. Et cette fois, tu ne verras pas le cauchemar qui t'a conduit ici. Ta mère n'est pas là. Tu n'es pas poursuivi par un homme squelette. Le camping est fermé pour la saison. Le ciel est noir et la neige commence à tomber. Yona se dit que l'agresseur n'était peut-être plus dans la caravane lorsque Hugo y est entré. D'après son propre examen des traces de sang, l'acte violent a été relativement bref. Bien que la découpe brutale ait continué après la mort de l'homme, tout le sang, qu'il ait été projeté, piétiné ou étalé, présente le même degré de coagulation. Tous restent silencieux autour du lit et harmonisent leur respiration en accompagnant le compte à rebours. C'est comme si la pièce entière entrait en transe, comme si elle descendait dans l'obscurité abyssale à la façon d'une cloche de plongée. Les rideaux se gonflent sous l'effet de l'air chaud qui monte du radiateur. Yona observe le visage de Hugo qui se détend, devient doux et enfantin. Eric baisse légèrement la voix et se penche un peu plus vers lui. 13 12 11. Tu atteins la dernière marche de l'escalier en bois et tu n'entends plus la fête, dit-il. 10 9. Tu traverses le hall. 8 7. Et tu continues par la porte d'entrée du manoir. 6 5. Sur le perron en pierre. Tu fais maintenant les derniers pas. 4 3 2 1 0. Tu es de retour au camping. Agnetta passe la main sur sa bouche sans quitter Hugo des yeux. Il fait nuit et la neige tombe sur les pelouses et les caravanes, dit Eric. Mais juste devant toi, tu aperçois une lumière.
Oui,
répond faiblement Hugo.
Une lumière brille à la fenêtre de la caravane, ajoute Eric. Oui.
Il y a quelqu'un là, dans l'obscurité dehors.
Une femme aux cheveux blonds,
raconte Hugo en humidifiant ses lèvres.
Elle tient une hache à la main. Elle s'avance vers la porte et l'ouvre.
Tu as le temps de voir son visage se refléter dans la fenêtre, dit Eric.
Non,
répond Hugo d'une voix inquiète.
Cette fois, tu le vois, car la porte s'ouvre très lentement. Elle regarde vers le bas. Je ne vois que son front et ses sourcils,
dit Hugo en se tortillant nerveusement. Grint lève la main vers Eric en signe d'avertissement.
Rien n'est dangereux. Tu es en sécurité et détendu. Tu peux décrire sans peur comment est son front. Il est blanc, comme des os, avec un pli marqué entre les sourcils, voyez les yeux ?
Je vois pas les yeux.
Regarde la main sur la poignée de la porte. Tu vois des bijoux ? Des tatouages ou...
Elle porte des gants en latex blanc.
Mais une montre ? Elle ne porte pas de montre ?
La caravane tangue légèrement quand elle entre et referme la porte, continue Hugo. L'homme élève la voix à l'intérieur. On entend des bruits sourds.
Le menton de Hugo commence à trembler sous l'angoisse.
Qu'est-ce que tu fais maintenant ?
J'ai froid, je tremble.
N'y pense pas. Tu vas bientôt avoir chaud, dit Eric.
Tu le sens ?
Tu as chaud maintenant, et tu avances sous la neige qui tombe.
Je marche au-dessus de son sac en tissu posé au sol, et je continue autour de la caravane.
Tu marches au-dessus du sac et tu le regardes, dit Eric.
Oui.
Que vois-tu ?
Je vois un sac en grosse toile, en toile de jute. Je vois un pied de biche court, un rouleau de papier essuie-tout et une pochette en plastique ensanglantée. Je regarde vers la caravane. Des ombres bougent derrière une des fenêtres.
« Regarde encore le sac, » dit Eric.
« Il est entrouvert. Une clé est attachée à la fermeture éclair par un porte-clé représentant un train dans une grande lettre, un G, et la bandoulière est filochée sur les bords, » murmure-t-il.
« C'est quoi cette pochette en plastique que tu vois ?»«
Une dent. Une dent sanglantée, » dit Hugo en haletant.
Lars Green se racle la gorge, croise le regard d'Eric et secoue la tête.
« On peut y aller un peu plus doucement, » murmure Agnetta.
« Tu n'écoutes que ma voix, » dit Eric en posant une main douce sur l'épaule de Hugo. « Et si jamais tu entends quelqu'un d'autre parler, tu te concentres encore plus sur mes paroles. » Tu es sous la neige, tu enjambes le sac, tu fais le tour de la caravane. Tu montes sur un bloc de béton léger. Tu regardes par la fenêtre et tu remarques que le temps à l'intérieur de la caravane s'écoule plus lentement qu'à l'extérieur.
Il y a de la condensation sur la vitre et un joint en caoutchouc gris foncé pend dans le coin arrondi de la fenêtre, raconte Hugo d'une voix rauque.
Je sais que tu préfères ne pas regarder à l'intérieur de la caravane, mais tu es en sécurité maintenant. Et tu peux raconter sans angoisse.
« Je veux pas, »
murmure-t-il en commençant à respirer avec difficulté.
« Ça suffit maintenant, » dit Grint d'une voix basse. « Nous arrêtons avant que
je sais ce que je fais. » Le coupe Eric calmement. La peur est liée aux images, mais elle n'est pas aussi forte qu'elle en a l'air.
« Agnetta ?» demande Grint.
« Continuons encore un peu, »
répond-elle en déglutissant péniblement. « Tu es sûr ?»
Elle hoche la tête.
Hugo, tu es derrière la caravane et tu regardes par la fenêtre, dit Eric.
L'homme est allongé sur le dos,
dit Hugo entre deux respirations rapides.
Une de ses jambes est coupée. Elle gît sur le sol, avec un pansement au genou et une chaussette noire au pied. Un peu plus loin, sous la table de la cuisine, il essaie de reculer en rampant, le sang gicle de son moignon. Je veux pas voir, je...
Yona comprend qu'Eric a réussi pour la première fois à faire en sorte que Hugo oublie totalement les images de son rêve. Après n'avoir vu que le cauchemar avec le monstre fait d'ossements, dans une double exposition difficile à interpréter, Hugo décrit maintenant ce qu'il a réellement vu cette nuit-là.
Il crie et essaie de stopper le sang avec ses mains.
Raconte Hugo la voix brisée par les larmes.
Vois-tu la meurtrière ?
Hugo se tend en un arc convulsif avant de retomber sur le matelas, haletant.
Je dois arrêter la séance, dit Grint.
Eric sort son stéthoscope de sa poche, le place dans ses oreilles, pose la membrane sur la poitrine de Hugo et écoute à trois endroits différents. Il est stressé, mais sa santé n'est pas en danger. Explique Eric en rangeant l'instrument.
Mais peut-être devrions-nous arrêter quand même, propose Agnetta.
Hugo respire avec difficulté, son corps se raidit.
Je voudrais continuer encore un peu, dit Eric.
Je sais pas.
Lars Grint tente d'avancer, mais Yuna le retient, secoue la tête, puis lui lance un sourire bienveillant.
Hugo, tu regardes maintenant la graisseuse, dit Eric.
Les cheveux blonds scintillent de gouttes de sang et...
Hugo, interrompt Grint.
Continue, dit Eric.
Elle attrape les cheveux ébouriffés de l'homme, étire son cou et lève la hache. Le sang coule le long du manche et sur les jointures de sa main. Elle tourne le corps pour frapper et...
Une sorte de spasme incontrôlable secoue le corps de Hugo. Sa tête se renverse en arrière dans un mouvement convulsif, tandis que ses jambes s'agitent si violemment que le lit en grince.
« Tu vois son visage de profil, » dit Eric.
Soudain, Lars Grint se précipite sur Hugo, saisit son bras, le tire vers lui et le redresse en position assise.
Hey, « qu'est-ce qui se passe ?»
allait Hugo.
« Rallonge-le, » ordonne Eric d'un ton sec.
« Ce n'est rien, » rassure Grint en serrant Hugo dans ses bras. « Tu es à la clinique. » Ils t'ont hypnotisé, mais j'arrête ça, ici et maintenant.
Yuna aide Eric à dégager les bras du médecin serrés autour de Hugo. Ils sentent que le corps du garçon est brûlant quand il l'aide à se rallonger sur le dos.
« Qu'est-ce que vous faites ?» demande Hugo, confus.
« Essaie de rester immobile, » dit Eric. « Inspire par le nez et expire par... »
Hugo se tourne sur le côté, écarte rapidement ses cheveux et vomit sur le sol, éclaboussant les chaussures et les mollets d'Agnetta.
« Merde !» allait Hugo. « C'était horrible, affreux !»«
Allonge-toi sur le dos et respire lentement, » ordonne Eric.
Yuna tend des mouchoirs à Hugo qui s'essuie la bouche et le menton avant de s'affaisser sur le dos.
« Franchement, je voulais pas voir ça, »
confie-t-il après un moment. « Je suis désolé, mais si j'avais pu terminer correctement la séance, tu ne te sentirais pas comme ça maintenant, » répond Eric.
Lars Grint tente un gobelet en papier avec de l'eau et un comprimé jaune triangulaire.
« J'en veux pas !»
dit Hugo en se détournant.
« Tu as l'habitude de prendre de l'Atarax ?» demande Eric.
« Non, seulement si j'ai une grosse crise de panique.
Ce qui n'arrive pas souvent, » répond Hugo.
« Quels autres médicaments prends-tu ?»«
Comment ça ?»
demande Hugo. « J'ai toujours pensé que ta grande sensibilité à l'hypnose était liée à ton trouble du sommeil, mais j'aimerais juste exclure le fait que ce soit dû à des médicaments ou à des interactions médicamenteuses. Parce que tu as une précision assez exceptionnelle dans tes souvenirs de somnambulisme, » explique Eric.
« Tu sais que tu n'es pas obligé de répondre, » rappelle Lars Grint. « Il n'a pas le droit de consulter ton dossier sans l'accord de ton père.
Quand j'ai des crises comme maintenant, je prends de l'azopiclone, un peu de mirtazapine et du tramadol, »
répond Hugo.
Quoi ?
S'étonne Eric en se tournant vers le docteur.
À petite dose, explique Lars Grint.
Oui, mais pourquoi ?
Je ne comprends pas, ça aggrave au contraire son somnambulisme, dit Eric.
Des recherches récentes de la salpêtrière montrent le contraire, justifie Grint.
Ah bon ?
Demande Eric en croisant le regard du docteur.
On teste. C'est ça la recherche, répond Grint sèchement.
Hugo, parle avec ton père, dit Eric. Si vous êtes d'accord, j'aimerais vérifier tes médicaments.
Agnetta reste auprès de Hugo quand les autres quittent la suite. Elle essuie ses chaussures, puis s'assied sur la chaise précédemment occupée par Eric et écarte une mèche des cheveux de Hugo.
Comment tu te sens ?
Ça va mieux maintenant, répond-il.
C'était assez intense.
Ça fera peut-être un chapitre dans le livre.
C'est toi qui décides ce qu'on pourra écrire, tu le sais, lui rappelle-t-elle.
On peut zapper ce qui s'est passé avec tes chaussures,
sourit-il.
Ça va être difficile, répond-elle en plaisantant.
Ok.
Hugo sourit et ferme les yeux un instant.
Agnetta lui caresse la joue à nouveau.
Ce serait bien si tu rentrais à la maison avec moi maintenant, dit-elle.
Je viendrai un peu plus tard. J'ai quelques trucs à faire.
Des trucs ?
Une personne ici que je voudrais...
Il sautait.
Qui ça ?
Demande-t-elle. Il rougit. Elle rit doucement, se lève et avertit qu'une tempête de neige arrive de la mer Baltique.